Les années incandescentes, 8e épisode. Dans le train vers Bâle, le 23 août 1897. Mon cher Heinrich, en dépit de tous les obstacles, le mouvement sioniste se développe et s'organise. Des comités sionistes se créent un peu partout, et pas seulement en Europe. Je t'écris dans le train qui m'entraîne vers le premier congrès sioniste, où les délégués des comités se réuniront. Je commence à mesurer le chemin parcouru depuis la publication de mon livre, il y a de cela 1 an et demi à peine. Tu te demanderas peut-être pourquoi nous avons choisi la Suisse comme lieu du congrès. Nous avions initialement prévu de nous réunir à Munich, mais les responsables de la communauté juive locale, des rabbins orthodoxes, unis bien étrangement pour l'occasion à des rabbins libéraux, se sont opposés à ce que le congrès se situe dans leur ville, cette réunion risquant, selon eux, de faire douter de leur patriotisme germanique. Julie n'a pas voulu m'accompagner. Elle refuse de participer à ce qu'elle appelle « un spectacle ridicule qui engloutit les ressources de la famille ». Heureusement que Mama Cam et mon cher papa sont des soutiens indéfectibles. Nous verrons ce que va apporter le congrès. S'il aboutit à ce que les grandes puissances prennent la chose en considération, que par exemple l'empereur d'Allemagne me fasse appeler, je poursuivrai mon travail. Sinon, et si de leur côté les juifs riches ne montrent aucune disposition à continuer l'action que j'ai avancée déjà très loin au prix de sacrifices personnels et matériels considérables, je m'arrêterai. Le fait est que je ne dis à personne que je ne dispose que d'une armée de schnorreurs. Je suis à la tête de gamins, de mendiants et de plaisantins. Certains m'exploitent, d'autres sont, déjà, jaloux ou déloyaux. D'autres encore font défection aussitôt qu'une petite carrière s'offre à eux. Peu d'entre eux sont des enthousiastes désintéressés. Néanmoins, cette armée-là suffirait amplement si le succès était en vue. Elle deviendrait rapidement une armée régulière et disciplinée. Nous verrons donc ce que vont apporter les jours qui viennent. Ton ami de toujours, Théodore. Bâle. Le 24 août 1897. Mon cher Heinrich, il est étrange de constater qu'à Bâle, la plupart des fils que j'ai tendus jusqu'ici vont converger. Mon émissaire turc sera là, ainsi que tous ceux qui ont aidé à constituer le mouvement populaire sous ma direction. Il faudra que je veille à ce qu'ils n'accordent pas trop d'attention les uns aux autres, car ils risqueraient de perdre en partie leur foi en la cause et en moi, s'ils voyaient avec quels faibles moyens j'ai, jusqu'ici, construit l'édifice. Tout cela constitue l'un de ces exploits d'équilibristes qui, une fois accomplis, paraissent aussi naturels qu'ils avaient semblé inimaginables auparavant. La direction de cette discussion sera de toute façon un exploit d'artiste assez rare, qui n'aura pas d'autre spectateur que celui qui l'exécutera. Ce sera une danse sur des œufs, toutes sortes d'œufs invisibles. L'œuvre du journal, que je n'ai pas le droit de compromettre et auquel je ne dois pas donner un prétexte pour me mettre à la porte. L'œuf des orthodoxes, l'œuf des modernes, l'œuf du patriotisme autrichien, l'œuf du sultan, qu'il me faut ménager si je ne veux pas rompre toute négociation. L'œuf du gouvernement russe, dont il ne faut rien dire de désagréable, bien qu'il faille quand même mentionner la situation déplorable des Juifs russes, l'œuvre des concessions chrétiennes à cause des lieux saints. C'est là, en fait, un résumé de toutes les difficultés que j'ai dû affronter jusqu'à présent. À cela s'ajoutent encore quelques œufs supplémentaires sur lesquels il me faudra également danser. L'œuf Edmond de Rothschild, l'œuf des colons en Palestine, auquel il ne faut pas faire perdre l'aide des Rothschild, tout en considérant leur misère. Puis il y a encore les œufs des conflits personnels, œufs de l'envie, de la jalousie. Je dois faire les choses de façon impersonnelle, et en même temps, je ne peux pas laisser échapper les rênes de mes mains. C'est un travail d'Hercule, je le dis sans exagération, car je n'en ai plus envie. Avant même l'ouverture du congrès, certains délégués me critiquent déjà. J'ai entendu l'un d'eux dire « Herzl, ce journaliste viennois qui écrit des feuilletons littéraires à la mode, ne connaît rien aux Juifs. » Ton ami de toujours, Théodore. Bâle, le matin du 30 août 1897. Mon cher Heinrich, l'histoire de la journée d'hier, je n'ai plus besoin de l'écrire. Elle est déjà en train d'être écrite par d'autres. Avant même d'ouvrir la séance, le doyen de l'Assemblée, un délégué roumain âgé de 67 ans, monta sur l'estrade et, une fois que le silence se fit, récita les larmes aux yeux. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, Shehiyanu vekimanu vegimanu lezeman haze. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous a fait vivre, exister et parvenir jusqu'à ce moment. De nombreux délégués étaient très émus. J'étais pour ma part tout à fait calme, comme on doit l'être au moment où se réalisent les événements que l'on a préparés, même si je me rendais compte des moindres détails. Il y eut toutefois un moment où je fus très touché. Ce fut lorsque, aussitôt après mon élection comme président, par acclamation, je montai sur l'estrade et que je trouvai, dans le courrier qui me fut remis, la première lettre de mon fils Hans. C'est sur mon bureau présidentiel, dont je ne surestime pas l'importance actuelle, mais qui prendra une part croissante dans l'histoire, que j'écrivis une série de cartes de correspondance du Congrès, adressées à mes parents, à Julie et à chacun de mes enfants, Pauline, Hans et Trude. Ce fut peut-être là le seul enfantillage que j'ai commis au cours de mes activités depuis 2 ans. Ton ami de toujours, Théodore. Vienne, le 3 septembre 1897. Mon cher Heinrich, si je veux résumer le congrès de Bâle en un mot, que je me garderai de prononcer en public, je dirai ceci. À Bâle, j'ai fondé l'État juif. Si je disais cela aujourd'hui à haute voix, je déclencherais un rire universel. D'ici 5 ans, peut-être. 50 ans sûrement, chacun le comprendra. J'ai donc créé à Bâle cet objet abstrait et par conséquent invisible à la plupart des gens. Et cela, en fait, avec des moyens infimes. J'ai amené les gens, progressivement, à un état d'esprit favorable à l'État et leur ai inculqué le sentiment qu'ils constituaient l'Assemblée nationale. L'une de mes premières idées pratiques avait été d'obliger les délégués à assister à la séance d'ouverture en habits et cravates blanches. Cela eut un effet excellent. Les habits de gala rendent la plupart des gens plus rigides. Cette rigidité a donné lieu immédiatement à un ton mesuré, que les délégués n'auraient peut-être pas adopté s'ils avaient été habillés de costumes clairs d'été ou de voyage. Et je n'ai pas manqué, pour ma part, de faire monter ce ton jusqu'à une certaine solennité. Il y eut de nombreux petits incidents. Tout le monde s'adressait à moi pour s'informer de toutes choses, importantes ou insignifiantes. À tout instant, 4 ou 5 personnes me parlaient en même temps. Cela me demandait un effort intellectuel énorme, car il fallait donner à chacun une réponse définitive. Je me sentais comme un champion d'échecs, jouant 32 parties simultanées. Un délégué a trouvé les mots pour résumer le congrès. Assis au bord du fleuve de Babylone, nous pleurions en nous souvenant de Sion. Nous sommes aujourd'hui assis au bord du fleuve de Baal, résolus à ne plus pleurer. Ton ami de toujours, Théodore. Inspiré du journal de Théodore Herzl, traduit de l'allemand par Paul Kessler, et de la biographie consacrée par Serge-Alain Rosenblum, sur des musiques originales de Frédéric Schumann et Freddy Minck, un mixage réalisé par Xavier Dreyfus, un visuel conçu par Fabienne Wacknin, l'idée originale du podcast a été développée par Patrice Kemoun.